aujourd'hui une société de classe moyenne. Sauf que pour que la France soit une société de classe moyenne, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait deux choses. Il faudrait qu'on soit dans un pays où il y a encore de la mobilité intergénérationnelle. Malheureusement, c'est très peu le cas aujourd'hui. Et il faudrait encore qu'on soit dans un pays où il y ait de la mobilité au cours d'une vie. Malheureusement, c'est très peu le cas aujourd'hui. Dans la France des Trente Glorieuses, le primé de notre société de classe moyenne, en 20 ans, un ouvrier pouvait rattraper le niveau d'un cadre. Dans la France actuelle, pour qu'un ouvrier rattrape le niveau de vie d'un cadre, il lui faudra attendre 100 ans. C'est-à-dire que c'est factuellement totalement impossible. Et parler, comme on entend beaucoup aujourd'hui, de la France des classes moyennes, c'est d'abord une facilité politique. Parce que vous vous dites que quand vous parlez de la France des classes moyennes, vous parlez à une espèce de grand ventre mou qui va vous garantir à peu près une majorité. Mais c'est surtout parler de la France des classes moyennes, parler d'un pays en essayant de créer des fausses oppositions. Comme si on pouvait opposer, je reprends les mots qui ont été utilisés récemment, des classes moyennes qui travailleraient et qui seraient les victimes de la fiscalité dans le pays, et des classes populaires qui refuseraient le travail et qui bénéficieraient de l'État-providence. De la même manière, on a pu voir des grilles de lecture qui opposaient excessivement facilement le monde urbain, le monde périurbain, le monde rural, pour essayer. Là, on a besoin de créer des alliances et là, on a besoin de créer du dialogue. Au contraire, de créer des affrontements, des oppositions, du conflit, pour que, au lieu de trouver une solution qui permette à chacun, dans sa globalité, où qu'il vive, d'avoir une trajectoire multiple, on allait pointer du doigt le voisin, la personne différente, celui de la ville d'à côté, le congé également, pour essayer de le faire passer pour responsable de la situation actuelle. L'idéologie qui est à la base du macronisme, dès le départ, c'était l'idéologie des premiers de cordée. L'idéologie des premiers de cordée, c'est l'idéologie de la réussite de quelques-uns. Qui devrait garantir la progression de tous. On a vu qu'économiquement et socialement, ça ne marchait absolument pas parce que la théorie du ruissellement n'a jamais été fondée économiquement. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin de dialogue et d'alliance. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de construire une politique qui soit une politique d'émancipation collective, qui permette à chacun de s'inscrire dans une trajectoire et avec un horizon positif et ouvert. Là où, dans les quotidiens, les horizons sont plutôt sombres et apparaissent plutôt fermés. J'ai tout à l'heure plaisanté sur l'organisation de la mobilité en disant bah, on va organiser ça pour que chacun puisse tout à l'heure se rendre à tel ou tel endroit, dans tel ou tel gare. Une des problématiques majeures de la société française actuelle. C'est une problématique de mobilité qui est une mobilité totalement empêchée. La mobilité est empêchée, y compris là où existent des transports collectifs, parce qu'on a des transports collectifs qui devraient nous permettre de nous inscrire dans une trajectoire de transition géologique et de transition vers de la mobilité collective, qui sont des transports collectifs très souvent défaillants. Un peu partout sur le territoire français. Pour l'ouvrage qu'avait la gentillesse de citer Christophe, le Classe Figée, je me suis, en couverture de cet ouvrage, le graphiste a mis trois feux rouges dans les trois sens pour montrer à quel point la société française se retrouvait bloquée en termes de mobilité. C'est quelque chose qui est particulièrement flagrant pour cet ouvrage. J'ai fait un calcul qui était un calcul relativement simple. En moyenne, tu pris les chiffres de l'Île-de-France, mais vous pourriez les retrouver dans toutes les régions françaises. En moyenne, si vous conduisez quelqu'un qui, pour aller travailler, prend tous les jours un train express régional, en moyenne, globalement, sur une semaine, il perd sur les quais de sa gare 1,5 à 2 heures par jour. soit parce que les trains sont en retard, soit parce que les trains sont déprogrammés, soit parce que les trains sont annulés. D'ailleurs, la nouvelle politique en matière de trains express régionaux dans les Hauts-de-France, c'est que pour essayer d'avoir des meilleurs coûts en matière de non-annulation des trains, les trains sont directement supprimés en avant. Et un train supprimé, on n'est pas un train annulé. Donc ça permet, en termes de facilement, d'augmenter la qualité de l'offre de service, alors qu'au contraire, vous l'avez encore plus dégradée. Si tout au long d'une vie de travail, vous perdez 1 heure et demie à 2 heures par semaine hein, à attendre des trains, si vous faites le cumul sur une année de travail pour voir véritablement ce que ça représente hein, dans le quotidien des citoyens qui sont concernés par ça, c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'en termes de mobilité, vous attendez l'équivalent de 6 mois sur les quais de gare pour pouvoir vous déplacer, aller travailler, etc., pour avoir des conditions normales de vie, parce que le déplacement, à la base, c'est la base de notre insertion dans la vie sociale, et notre insertion sociale se base d'abord et avant tout sur la mobilité. La réalité aujourd'hui, vous avez un géographe qui s'appelle Éric Le Breton, qui a calculé la distance vitale hein, qu'il nous faut, chacun d'entre nous, parcourir au quotidien. La distance vitale, c'est la distance dont on a besoin pour se déplacer, pour aller travailler, conduire les enfants à l'école, aller chez le médecin se faire soigner, aller faire des courses pour s'alimenter, s'insérer socialement, vivre, ne serait-ce que vivre. Cette distance sociale, il n'y a pas 20 ans, elle était de 20 km. Aujourd'hui, elle est passée à 40 km. Si on ne résout pas les problèmes de la qualité de la mobilité collective, alors on renforcera la problématique de l'isolement social qui naît des difficultés de mobilité. Et pourquoi j'arrive à ce sujet-là? Parce que si on veut conduire le sujet de la transition écologique, il faut bien sûr, ce que disait Christophe, le penser parallèlement au sujet de la transition sociale, mais surtout, il faut penser des solutions concrètement répondre aux difficultés quotidiennes d'empeuvement dans lequel se trouvent les citoyens français. La difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à une conduite positive de la transition écologique, c'est que les trajectoires qu'on peut concevoir, qu'on peut fixer, qu'on peut penser, elles arrivent sur des quotidiens qui sont des quotidiens dégradés en termes de qualité de mobilité, qui sont des quotidiens dégradés en termes de capacité à accéder au logement, qui sont des quotidiens dégradés en termes de pouvoir d'achat, qui sont des quotidiens dégradés en termes de qualité des emplois. Et si la transition écologique, dans ce contexte-là, le besoin, la demande qu'on a de résilience apparaît comme une forme d'injonction extérieure, alors les choses ne peuvent pas fonctionner parce qu'on crée des situations artificielles de rejet de quelque chose qui apparaît imposé sur un quotidien qui est déjà en réalité, un quotidien qui est extrêmement difficile. D'où la nécessité pour moi, non seulement de penser la transition écologique en même temps que la transition sociale, mais surtout de penser en même temps la transition démocratique. Il va falloir créer les conditions, les formes de débat, de réunion, de dialogue démocratique dans lesquelles chacun va pouvoir participer pour créer les conditions de la résilience et pour dessiner les contours d'une transition qui soit une transition qui parte non pas de l'injonction du haut et de l'extérieur, mais qui soit une transition qui parte de la réalité du vécu, du terrain, du quotidien et des efforts que chacun sera positivement amené à faire. On ne peut pas penser par le haut les efforts, les changements de vie qu'on va demander aux citoyens. Ou alors sinon, pour vivre des choses extrêmement artificielles, je prends là la situation du Grand Paris, où vous pensez une zone à sel d'émission sur le Grand Paris, où tout d'un coup, vous avez 3 habitants sur 4 de Seine-Saint-Denis, dont les voitures ne peuvent plus circuler. Parce que vous avez pensé les choses du haut de manière artificielle. Et pour moi, c'est véritablement le défi actuellement de penser les cadres démocratiques mouvants, de délibérations nouvelles qui permettent de penser la résilience par les citoyens, qui permettent de penser la résilience par les territoires, pour que la transition soit le C d'une délibération collective, d'une délibération collective positive, et quand même partira des citoyens eux-mêmes, les citoyens le verront comme une capacité à être actifs dans la construction de l'avenir et pas seulement à devoir accepter une dégradation, ce qui serait cassé comme une dégradation de leur façon de vivre. Vous nous aimez ?
Merci.